ce lutrin là, c'est un lieu de vie. Belle et heureuse année, soirée choucroute. Mais Seigneur, nous te prions que, ouais, que nous avons chacun notre vie, nos lieux de vie, nos moments agréables de vie. Eh bien, Seigneur, nous te prions que le culte soit aussi un lieu de vie et un lieu de ta vie, un lieu où tu nous donnes la vie, où tu nous donnes la parole de vie, en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la jalousie. Je suis sans arrêt en train de me demander sur quoi il faut prêcher. Et cette idée m'était venue à la tête. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis encore en train de fabriquer? De toute façon, ça va être un sujet désagréable. Je vais faire la morale aux gens. C'est un coup à être mal vu quand on fait la morale aux gens. J'avais comme ça je me rebiffais moi-même contre cette idée qui m'était venue. Et puis quelqu'un, Jean-Pierre Bess, il me donne ça, il me fait un petit cadeau, une collection d'enseignements. J'ouvre au hasard et je tombe, la jalousie. Je me suis dit, bon, des fois, il y a des coïncidences, mais si on reçoit quelque chose une fois, qu'on le reçoit deux fois, peut-être faut écouter. Hein. Et donc, je vais vous parler de jalousie. J'ai trouvé, on en trouve des listes comme ça, des listes de choses que les gens heureux ne font pas. Alors vous allez écouter comme ça, les choses que les gens heureux ne font pas. Par exemple, s'inquiéter au sujet de ce que les autres pensent d'eux. Comparer leur vie aux autres. Compter sur les événements externes pour être heureux. Vivre dans le passé, etc. Et puis dans la vie, je trouve, être jaloux. Les gens heureux, ils ne sont pas jaloux. Mais comment faire? Parce que quelquefois on l'est, et je vais vous lire quand même des passages de la Bible pour vous dire qu'on, montrer qu'on en parle. Hein. Je l'ai copié ici. Il y en a un qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 3. On ne va pas s'étonner, dans l'église de Corinthe, il y avait toutes sortes de problèmes, et Paul il passe son temps à parler des problèmes qu'il y avait en église. Enfin, j'aime pas ça. J'ai l'impression d'être loin. Trop loin. Peut-être ça vous convient d'être loin, je sais pas. Alors l'apôtre Paul dit ceci: vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. Dans son langage, ça veut dire, vous savez, il y a un langage bizarre de l'apôtre Paul, il marchait selon la chair ou selon l'esprit. Mais c'est une bonne traduction. Marcher selon la chair, c'est les hommes livrés à eux-mêmes. Par opposition aux hommes qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Alors que font les hommes livrés à eux-mêmes? En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Et un autre passage, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 20, car je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous, de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous le souhaitiez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et du désordre. Belle liste dont la jalousie fait partie, mais il y a aussi bien d'autres choses. Belle liste de toutes sortes de choses qui brouillent les relations humaines, parce que c'est ça l'affaire. Il y a des choses qui brouillent les relations humaines, et l'évangile, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et si je pratique des choses qui brouillent les relations humaines, je n'aime pas mon prochain. Donc on a un problème, et un problème de fond. Notre témoignage chrétien, c'est essentiellement ça, hein, de pouvoir montrer que nous nous aimons les uns les autres. Alors là, il y a quelque chose qui se passe et qui peut-être va intéresser des gens pour qu'ils comprennent d'où ça vient. Alors la jalousie, j'ai choisi la jalousie. Pourquoi j'ai choisi? Peut-être parce qu'il me semble que moi, je ne suis pas trop jaloux des autres. Il y a d'autres choses dans la liste, notamment il est question de colère. Il y a plusieurs passages qui parlent de ces genres de choses qui brouillent les relations humaines. Et il est plus souvent sujet de la colère que de la jalousie. Mais moi, je veux vous dire, c'est pour expliquer que je ne viens pas faire des leçons de morale, j'aurais eu plus de mal à vous parler de la colère. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai de la colère. Je le sais, j'ai un problème avec ça. Et donc, j'aurais eu peut-être plus de mal à en parler, mais il faudrait que peut-être il y a des gens qui n'éprouvent pas de colère envers les autres, alors ils devraient nous expliquer pourquoi et comment ils peuvent être libérés de la colère. Alors moi, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de la jalousie. En quoi consiste la jalousie ? Ben, dans un premier temps, ça consiste à se comparer aux autres. Vous voyez, vous avez entendu, les gens heureux ne passent pas leur temps à se comparer aux autres. Bon, on peut dire jusque-là, se comparer aux autres, il s'agit de faits objectifs. Hein. Machin, il est plus grand que moi. Bah, c'est comme ça, hein. C'est vrai. Il y en a des plus petits, il y en a des plus jeunes, de plus en plus. Je sais pas. Moi, j'avais une habitude, j'avais l'habitude de vouvoyer les gens plus vieux que moi, systématiquement. Puis je m'aperçois qu'il y en a de moins en moins. Et que je me mets à tutoyer de plus en plus de gens. Ah, il y a des gens qui sont plus jeunes. Il y a des gens qui sont plus riches. Ma femme m'a dit qu'il y a quelque temps, elle a entendu des gens qui discutaient, puis quelqu'un qui disait « Moi, je pense qu'à moins de 5 000 euros par mois, on ne peut pas s'en sortir. Hein ? » Je sais que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de riches. Donc, la plupart d'entre nous, ça va nous choquer d'entendre ça. Il y a des gens qui gagnent 5 000 euros par mois et qui trouvent que c'est ric-rac. Mais on ne se rend pas compte. En fait, moi, je pense souvent, les gens qui vivent d'un certain niveau de vie, d'un certain style de vie, ne se rendent pas compte comment vivent les autres. Et c'est vrai à l'inverse. Hein. C'est vrai aussi à l'inverse. Moi, j'ai été pasteur tout au début, quand j'étais jeune, dans une église où il y avait des gens de la haute société protestante. Je me suis aperçu... Alors, pas qu'ils étaient plus riches que moi, bien sûr, c'est le cas, mais qu'ils étaient plus cultivés que moi. Et je les ai admirés. Je ne les ai pas jalousés, c'est peut-être ma chance. Ils n'ont pas seulement, ces gens, le fait qu'ils ont de la chance parce qu'ils ont fait des héritages, ils ont du fric et tout ça. Ils ont aussi un niveau de culture. Ils savent faire des trucs. Ils ont une capacité à arranger leur environnement, pas forcément avec du fric, mais avec du goût. Et ils ont quelque chose de plus que moi, qu'ils ont reçu par éducation. Je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas été éduqué dans le même milieu. Vous voyez, on se compare aux autres. Alors, il y a ceux qui sont plus beaux que moi. Pourquoi vous rigolez ? Tout de suite, ils rigolent. Hein ? Mais ils sont peu, hein, ouais. Mes magnifiques pectoraux, mes abdominaux d'acier, tout ça. Bon, non, mais il faut dire ça pour les femmes aussi, hein. Il y a sans doute certaines femmes qui sont plus belles que vous, non ? Il n'y en a pas beaucoup non plus. Tu regardes pas, voilà, tu n'es pas jalouse. Ouais, il y a plein, alors les motifs d'être jaloux de quelque chose, vraiment il y en a dans tous les domaines, parce que ça commence par se comparer aux autres. Mais après tout, ces comparaisons, elles ont quelque chose d'objectif. Si un tel est plus grand que moi, il est plus grand que moi, c'est comme ça. Là où ça dérape, c'est quand on fait passer des considérations objectives en problème de personne. En gros, pour caricaturer, mais c'est comme ça que ça se passe quand même, il y en a un qui est là, qui est plus grand que moi, et je me dis, qui c'est ce type qui me regarde de haut ? Voilà. Là, j'ai transformé la constatation en un problème, et de ce problème, j'accuse une personne. Salaud de riche. Vous pouvez me jurer que vous n'avez jamais dit ça ? Ou que vous ne l'avez jamais pensé ? Ah, il y a des gens qui sont plus riches que vous. Et puis, peut-être, ils ont des sous, vous n'en avez pas, vous êtes dans des difficultés, et vous voyez à côté, là, celui qui est plus riche, qui ne se rend même pas compte que vous avez des difficultés. Il pourrait vous aider, il ne le fait pas. Peut-être parce qu'il est égoïste, mais peut-être aussi parce qu'il ne se rend même pas compte. Moi, j'ai remarqué ça. Il ne se rend pas compte que vous avez des difficultés et que vous avez besoin d'aide. Vous pouvez me jurer que vous n'avez jamais dit ça, Lodrich. Là, on est dans la jalousie parce qu'on commence à faire d'un fait un problème de personne et une hostilité envers des personnes. Il y a des filles qui plaisent aux garçons plus que d'autres. Elles ont de la chance. Vous êtes sûr qu'elles ont de la chance? Ça peut poser des problèmes aussi. Moi, je ne suis pas une fille. Alors là, dans ce côté-là, je suis neutre. J'observe que celles qui sont belles et qui sont convoitées par tout le monde, ça peut leur causer aussi beaucoup de problèmes. Alors que celle qui est moins belle et qui porte moins d'intérêt, auquel les garçons s'intéressent moins, elle est jalouse. Elle se dit, elle a de la chance, l'autre. Vous voyez, la jalousie, il y a des différences entre nous. On ne va quand même pas faire semblant qu'il n'y a pas de différence. Dans tous les domaines, on est plus ceci et on est moins cela que les autres. Voilà. Et puis, c'est un fait. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce fait? Si on commence à en faire une hostilité envers les autres, on tombe dans la jalousie, on induit des mauvais sentiments, des mauvaises relations. Et alors pourquoi c'est négatif, hein? Il y a beaucoup de raisons qui font que la jalousie devient quelque chose de négatif. La principale, je l'ai dit, c'est que ça brise la relation. Ça nous empêche d'être en bonne relation avec quelqu'un. Si quelqu'un est plus riche que moi, est-ce que ça peut être une chance? Tiens, ma mère, elle est là. Mon frère est plus riche que moi. Il y a une plus belle maison. Il y a un parc, il y a une rivière, tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe si je suis jaloux? Je vais avoir de l'hostilité envers mon frère. Je vais avoir une mauvaise relation avec mon frère. Et qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas jaloux? Je dis, chouette, il y a de la chance, mon frère, je suis content pour lui. Et je garde une bonne relation avec mon frère. Le résultat, c'est qu'il m'invite chez lui. Et que sa plus belle maison et son parc et sa rivière, j'en profite. Alors que si j'étais hostile, ça brouillerait la relation et j'en profiterais pas. Il faut se rendre compte du phénomène de la conséquence. Les choses pour lesquelles on développe une hostilité, le résultat, c'est qu'on s'en prive. Si quelqu'un est plus grand que moi et plus costaud, et que je dis qu'est-ce que je fais? J'ai un ennemi. En plus, il est plus costaud que moi. Mais si je dis je suis content, il est grand, il est beau, il est costaud, tout ça, je l'aime bien. Mais peut-être le jour où j'ai un ennui, j'aurai un défenseur, justement. Peut-être qu'il va prendre ma défense et que j'aurai de la chance d'avoir quelqu'un plus costaud que moi dans les parages. Vous voyez comment on arrive à des perversions, on ne se rend pas compte à quel point nos mauvais sentiments nous nuisent. On brise une relation et finalement on s'interdit d'obtenir ce qu'on n'a pas, ce qu'on convoite qu'on n'a pas, mais qu'en fin de compte, on pourrait avoir quand même, mais on l'empêche en étant jaloux. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai un ami riche, un ami qui est homme d'affaires, qui voyage partout dans le monde. Mais il n'est pas jaloux de cet ami riche. Vous savez ce qu'il a fait, cet ami, pour lui? Alors, moi je voyage tellement peu souvent en avion que je ne suis même pas au courant de ça, mais enfin, il m'a expliqué que quand vous voyagez beaucoup en avion, vous avez des points. Où on vous attribue des points et ces points, ça vous donne des réductions ou des billets gratuits et tout ça. Ben son ami lui donne tous ses points. Et ce qui fait que lui, il fait des voyages gratis de temps en temps. Il est canadien, il vient en France, gratuitement, parce qu'il a un ami riche. Et bien si vous avez un ami riche et que c'est un ami, vous avez une chance qu'il fasse quelque chose pour vous. Mais si vous en faites un ennemi, et quand on jalouse les gens, on en fait un ennemi, pourquoi il vous donnerait quelque chose? Franchement. Pardon? Ouais, mais à travers l'océan Atlantique, c'est pas commode. Ouais. Vous voyez, il faut prendre conscience, pour moi, pour se défaire des mauvaises habitudes, des mauvais sentiments, l'une des choses, c'est de se rendre compte à quel point ça nous nuit. Pas seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Ça nous fait mal. Ça a pour effet final que nous avons moins de chances encore qu'avant d'obtenir ce que nous souhaiterions. Alors voilà, vous êtes convaincus. Et puis, moi je dirais la jalousie, c'est un peu comme l'inquiétude. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Non, ça c'est Paul dans l'Épître aux Philippiens. Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, ajoute une coudée, enfin, je veux dire, ajoute 50 cm à la durée de sa vie. Pourtant, on est inquiet quelquefois, on a des motifs vrais d'être inquiet. Les inquiétudes, elles ne sont pas toujours infondées, quelquefois si on s'inquiète pour rien. Mais des fois, on s'inquiète parce qu'il y a des vrais problèmes et qui pourraient avoir des mauvaises conséquences. Les inquiétudes, quelquefois, elles sont justifiées. Pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien ? Parce que ça ne nous aide pas. Voilà, moi, ce que j'ai compris. Être inquiet, ça ne nous aide pas. Ça ne nous donne pas la solution au problème. Ça nous ronge, ça nous mine, ça nous détruit nous-mêmes sans nous donner la solution. Ce qui fait que quand on a un sujet d'inquiétude, même un vrai, un valable, la première chose à faire, c'est de dire, ben, je vais entrer dans la confiance en Dieu. Dire, je vais cesser d'être inquiet. C'est facile à dire, hein. Oui, c'est facile à dire et on va y venir parce que c'est une question profonde pour que ça change. Et on s'aperçoit, c'est que quand on cesse d'être inquiet, sans nier les problèmes, hein, c'est pas du déni, eh ben, on est plus, simplement plus libre, plus tranquille et plus capable, en fait, de trouver la solution à nos problèmes. C'est ce qui se passe. Eh ben, la jalousie, c'est pareil. En renonçant à la jalousie, je renonce à quelque chose. Il est plus riche et j'aimerais bien être plus riche. Bon, et alors ? Bon, ben, je renonce à la jalousie, il est plus riche, et puis c'est comme ça. Et puis je l'accepte, et même je me réjouis pour l'autre. Est-ce que ça m'a enrichi ? Jusque-là, non. Mais ça m'a amélioré. Ça a amélioré mon cœur, ça améliore ma relation, et ça crée les conditions pour que les choses s'améliorent ensuite. Donc, troisième partie sur quatre, ça va jusqu'à maintenant. La jalousie a pour racine un problème d'identité. C'est-à-dire, on passe d'un fait réel, comme j'ai dit, à un problème de personne. Parce que si je suis jaloux, c'est parce que je supporte mal d'être inférieur en quelque chose, en quoi que ce soit. Je ne le supporte pas. Et là, j'ai lu justement dans cet enseignement qu'on m'a donné, peut-être je vais passer par là, il donne un enseignement sur Caïn. Dans la Genèse, c'est presque le premier acte ou l'un des premiers actes de l'humanité, c'est qu'un frère a tué son frère. Ils ont trouvé moyen, quoi. Dès le début, Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi ? Parce qu'il était jaloux. On nous dit une chose bizarre, on se demande pourquoi. Tous les deux frères ont offert un sacrifice au Seigneur. Le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté. Et le sacrifice d'Abel a été accepté. Jaloux ? Pourquoi ? Remarquez que tout de suite, Dieu n'a pas rejeté Caïn. Il a rejeté son offrande, son sacrifice. Mais aussitôt, il a parlé à Caïn. Il lui a dit, fais attention, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui, domine sur le péché. Dieu a parlé à Caïn. Il voulait faire quelque chose avec Caïn. Il n'avait pas rejeté Caïn. Mais Caïn, lui, s'est senti rejeté. Vous voyez, d'un fait désagréable, effectivement, l'offrande n'a pas été acceptée, tandis que l'offrande de l'autre, de son frère, a été acceptée. Il en a fait une question de personne. Je ne supporte pas. Et il est allé jusqu'au bout de la logique. Il a entraîné son frère à part et il l'a tué. Ah, tiens, j'ai réglé la question de personne. Ah, il ne reste plus que moi. Mais pas avec le Seigneur. La question n'était pas réglée. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Caïn. Mais dire quand même que même après ça, Dieu n'a pas abandonné Caïn. Bon, on ne voit pas toute l'histoire. Dieu a continué à parler à Caïn. Voilà ce que fait Dieu avec nous. Même quand on est pécheur, Dieu continue à nous parler. C'est-à-dire, il ne rejette pas notre personne. Pas pour qu'on continue à être pécheur, mais pour nous racheter, pour nous rattraper, toujours. Alors là, il dit, alors c'est là que quand on commence à écouter les Juifs et ce qu'ils disent, ils ont un enseignement, une compréhension de leurs propres écritures. Si vous lisez dans Genèse verset 4, il dit il y a un défaut dans la façon dont ces enfants sont nés. Caïn, c'est le premier-né hein, de Ève, de Adam et Ève. Mais il est dit, Ève a proclamé quand Caïn est né, j'ai bâti un homme avec l'Éternel. Et le juif dit, il manque quelque chose là-dedans. Il manque le père. Le père, il n'est pas nommé. Ève est comme si elle avait fait cet enfant toute seule, pas toute seule, avec le Seigneur. Et du coup, Caïn, c'était un homme roi, un homme Dieu, idéalisé par sa mère. Du coup, il ne pouvait pas supporter qu'on le déprécie après. Il ne pouvait pas supporter que quelque chose, dans quelque chose, il soit rejeté. Abel, son nom signifie poussière. Autant dire rien. Elle l'avait appelé rien. Elle l'avait appelé poussière. Et bien c'est à lui que Dieu a accepté son offrande. Lui qui était rien, lui qui était poussière, Dieu l'a accepté. Et l'autre, Dieu ne l'a pas rejeté. Il voulait l'éduquer, lui apprendre. Et ils disent, le troisième fils, qui s'appelle Seth, il est dit que son père a proclamé son nom. Enfin, une situation équilibrée, un homme qui est né d'une femme et dont son père, que son père a pris en charge. Et c'est ce Seth qui est devenu le père de la lignée qui a mené à Noé et puis ensuite à Abraham, la lignée qui a conservé le nom de Dieu. Enfin, il y avait quelque chose d'équilibré là-dedans. Caïn n'était pas équilibré, Abel non plus. Ils avaient besoin que Dieu les prenne en charge, mais de manière différente. Au lieu de ça, la jalousie. Voilà. Ben, on n'est pas équilibré tous, dans tous les domaines, on n'est pas équilibré. Moi, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez en bonne santé, il y a plein de choses qui sont... Et alors, est-ce que Dieu veut me parler, oui ou non? Vous voyez, on va sortir de la jalousie en changeant de façon de voir les choses. Est-ce que Dieu va me parler, oui et non, oui ou non? Est-ce que je suis important aux yeux de Dieu, oui ou non? Est-ce qu'il va, là où j'en suis, me dire quelque chose qui va me faire avancer, oui ou non? Vous savez, la jalousie, c'est une question d'identité. C'est parce que j'ai un problème d'identité que je ne supporte pas d'être infériorisé dans quelque domaine que ce soit. Pour l'un, ce sera ceci, pour l'autre, ce sera cela. Oui, mais si Dieu s'occupe de moi, est-ce que ça devient important que je sois moins ceci ou moins cela? Que l'autre. Ça devient moins important. Hein. Ça devient moins important. Vous savez, on est pasteur. Il y a des pasteurs célèbres dont on se souvient après pendant des siècles. Jean-Michel, tu peux jurer qu'on va se souvenir de toi pendant des siècles après? T'es pas sûr? Alors, t'es un pasteur inférieur. Non, non, ça te tracasse pas. T'as raison, il est pas jaloux. Quelle importance! Voyez, quelle importance. Et c'est là qu'on se dit, ben, qu'on peut changer d'attitude en disant, c'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Parce qu'il existe autre chose qui est plus important. C'est que Dieu m'a parlé. Caïn, il aurait pu devenir celui qui domine sur le péché. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur lui avait appelé. Vous rendez compte, ça aurait été quand même considérable. Ça aurait été quelque chose. Et il a raté parce qu'il n'a pas pu faire son identité de la parole que Dieu lui a adressée. Et voilà, c'est ça que nous sommes appelés à faire. C'est la parole que Dieu nous adresse qui fait ce que je suis. Et la parole que Dieu m'a adressée est unique. Il ne l'a pas adressée à un autre. Ah, vous êtes jaloux, hein? On peut être tous jaloux les uns des autres, mais... Dieu a adressé une parole unique à l'un, à l'autre d'entre vous. Et cette parole, c'est celle-là dont on doit s'emparer pour dire c'est ça. C'est ça qui me fait. C'est ça qui compte dans ma vie. La parole que Dieu m'a adressée. Un jour, on m'a demandé de rendre témoignage. Et moi, ça m'arrive de temps en temps. J'ai l'impression que Dieu me parle, il me dit quelque chose. Et je me suis mis à reprendre tous les moments où Dieu m'avait parlé, il m'a dit quelque chose. Il y en avait une dizaine comme ça. Puis je me suis dit, mais les gens, ils vont croire que Dieu, il me parle tout le temps. Non, mais il y en avait une dizaine, mais c'est sur 20 ans. Ben oui, ça m'arrive de temps en temps. Tous les jours, je prie le Seigneur, oh, je reçois des paroles. Et de temps en temps, quand j'ai le Seigneur me donne quelque chose de fort, quelque chose de précis, quelque chose qui m'aide, quelque chose qui me donne la direction à suivre de temps en temps. Eh bien voilà, soyons jaloux au sens positif de cette chose-là. C'est celle-là que le Seigneur vous a donnée, il ne l'a pas donnée à un autre. Et c'est cette parole que Dieu vous donne qui vous rend précieux à ses yeux. Et si vous êtes précieux à ses yeux, dites-vous que celui, l'autre, le frère, la sœur, il est aussi précieux aux yeux de Dieu. Ben, je vais vous en raconter une. Je l'ai déjà raconté, mais pour moi, c'est tellement fondateur. Quand j'étais jeune, j'ai eu des périodes de révolte. Hein, pas étonnant, hein. Mais de révolte contre les pasteurs. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que les pasteurs, ils avaient des défauts. Ben, parce que je les admirais. C'était des modèles. C'était les exemples. Et puis, quand vous connaissez quelqu'un un peu de près, ben vous vous apercevez qu'il y a des défauts. J'étais en colère. Et j'étais en colère, et comme j'étais pas sot quand même, parce que je cherchais Dieu, je suis quand même allé dans une rencontre chrétienne. Mais j'étais en colère. Je suis sûr, si le Seigneur à ce moment-là m'avait fait des reproches, j'aurais été capable de me révolter. Et qu'est-ce que j'ai reçu ? L'amour de Dieu. L'amour inconditionnel. J'ai reçu la compréhension que Dieu m'aimait sans condition. Ma colère, elle était battue. Ma colère, elle était battue parce que dessus, il y avait un amour qui était plus fort et qui me parlait pas des pasteurs, de leurs défauts. C'était autre chose. Il me parlait du fait qu'il m'aimait sans condition. Alors moi, j'étais vaincu dans ma colère. Est-ce que ça résolvait mon problème ? Moi, je vais vous dire, ça le résolvait d'une certaine manière. Parce que je veux dire, si le Seigneur m'aime à ce point, les autres, comment il les aime ? Pareil. Il les aime pareil. Il les aime à ce point. Il les aime sans condition. Il les aime sans faire de reproches. Vous voyez, comprenez bien la chose. Il ne dit pas que nos défauts, ma colère, par exemple, tiens, j'en parle. C'est bien, désormais. Non ! Mais qu'il résout le problème en nous aimant d'abord. Et ensuite, parce qu'il nous aime, nous sommes capables de nous laisser transformer, de nous laisser changer, de le laisser agir dans nos vies. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de changer ma vie. Il ne faut pas charrier quand même. Hein. Faut pas, je sais pas, vous voulez changer ma vie ? N'en demandez pas trop, hein, je ne serais pas d'accord. Hein. Mais celui qui m'aime, il peut. Il peut. Celui-là ou celle-là, qui m'aime, il peut se permettre. On va accepter sans être dévalorisé. Vous voyez ? Et donc, j'ai compris que ben, même le pasteur qui a des défauts, ben, le Seigneur l'aime de la même manière. Et donc, moi aussi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Moi aussi, je dois l'aimer comme il est. Bon, après, j'ai évolué. Hein, j'étais jeune, je sais bien que tout le monde a des défauts. Pour moi, les gens qui n'ont pas de défauts, ils sont inquiétants. Moi, j'ai changé. Les gens qui n'ont pas de défauts, probablement, c'est qu'ils sont cachés. Au plus vite je vois les défauts, au plus vite je suis rassuré. Je dis, ouais, c'est bien, c'est qu'ils ne les cachent pas. Bon, c'est-à-dire, j'ai gagné en maturité dans ce domaine-là. Je sais bien, les gens, ils sont comme ils sont. Ils ont des qualités, ils ont des défauts. Et autant on ne doit pas jalouser leurs qualités, autant on ne doit pas se dépêcher de leur reprocher leurs défauts. Parce que moi aussi, j'en ai. Même si ce n'est pas les mêmes. Et ainsi, on peut, en faisant primer l'amour de Dieu, changer la relation. Alors, qu'est-ce que c'est le secret ? J'ai dit, la jalousie, en fait, c'est un problème d'identité. C'est-à-dire, il y a des choses, des différences que je ne supporte pas. Eh bien, c'est le changement d'identité. Quand j'ai compris qui je suis devant Dieu, je ne suis plus le même. Et donc, ça ne me tracasse plus de voir que mon frère, ma sœur, il est comme ci, il est comme ça. Ça ne me tracasse plus. Je vais lire, je vais finir avec ça, un passage de Éphésiens 4, parce qu'il dit bien les choses. Vous voyez, quand il parle de jalousie et d'autres choses, hein, d'animosité, de dispute, de colère, il dit, ben, vous vivez à la manière humaine, selon la chair. Alors, c'est quoi l'antidote ? C'est de vivre selon l'esprit. Et comment on peut ?
Oui, c'est là qu'on ne peut pas faire de la morale. C'est là que l'évangile, c'est autre chose de la morale. Même celui qui vous fait la morale, des fois, il a raison, mais il ne peut pas résoudre votre problème. Parce que pour résoudre ce genre de problème, il faut qu'on change. Il faut qu'à l'intérieur, on ne soit plus les mêmes. C'est comme ça qu'on peut changer et réellement corriger nos défauts et avoir un changement de comportement. Et alors, changer de personnalité, qui peut faire ça? Ça ne s'impose pas. Ça vient de Dieu. C'est ça, vivre selon l'Esprit, laisser l'Esprit Saint nous changer. Alors, je lis dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, un mode de vie, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. » Vous voyez, le fondement de la bonne morale, c'est apprendre qui est Jésus-Christ. C'est une question d'identité. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, et à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Ah, si vous voulez un truc, une recette pour ne plus être jaloux, je suis désolé, j'en ai pas, la recette c'est de ne plus être l'ancien homme ou femme qu'on était, et de revêtir cet homme nouveau qui est selon le Christ, et qui fait qu'on a d'autres pensées, d'autres manières de voir les choses. C'est pourquoi, débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain, ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Membres les uns des autres, ça veut dire celui qui ment aux autres, il se fait du mal à lui-même, hein, c'est ça que ça veut dire. Mettez-vous en colère, ah chic, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de voler, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans leur foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen.